Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Plus qu'une semaine pour le démarrage des épreuves de l'examen d'État édition 2023. En ouverture de ce journal, nous vous amenons dans le Maniema pour voir comment tout ceci se prépare. Les premiers échos font état d'un bon avancement et tout semble être prêt. Quand une dispute des limites de terre aboutit à mort d'homme, cela se passe une fois de plus dans notre pays, dans le Kassai central à Dibelengue. Des habitants de Benakassassa, Bassongue, Banembele et Baji Jamboa se sont rentrés dedans. Au finish, plusieurs maisons incendiées, des blessés ainsi que des morts. Hélène Cohn, directrice du service de la lutte anti-mine de l'ONU UNMA, c'est l'invitée de ce journal qui s'exprime sur l'importance de renforcer les capacités des ONG congolaises qui travaillent dans la lutte contre les mines. Pour en savoir plus sur tout ceci, restez branchés sur votre fréquence de Radio Okapi pour ce journal et vous en dévoile tout le contenu. Bienvenue donc et bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous le savez, le 8 mai prochain, c'est le début des épreuves hors session sur toute l'étendue du pays selon le calendrier scolaire édition 2023. Dans la province du Maniema, les mâles contenant des copies de ces épreuves sont arrivés hier lundi. La province éducationnelle de Maniema indique être prête pour l'organisation de ces épreuves. On écoute Madame Godlive Mwinda, inspectrice principale provinciale qui a réceptionné ces mâles au micro de Florence Kizalunga.
La province éducationnelle de Maniema 1 est fin prête pour les épreuves qui démarrent le 8 mai. Les mâles contenant les copies d'examen, les épreuves, les mâles sont déjà là, les macarons sont déjà là. Nous sommes en train de déployer déjà les superviseurs qui partent dans les centres lointains. Donc nous sommes tout à fait prêts pour l'épreuve qui démarre le 8 mai. Je voudrais d'abord rappeler le calendrier des épreuves hors session. Pour le cycle court, nous avons le 8 mai la rédaction, le 9 mai les épreuves traditionnelles pour les options techniques, du mercredi 10 au samedi 13 mai, les épreuves de pratique professionnelle. Pour le cycle long, nous aurons le 8 mai la dissertation, le 9 mai les épreuves traditionnelles des options techniques, et du mercredi 10 au samedi 13 mai, les épreuves orales de français, et enfin, du lundi 15 au samedi 20 mai, les épreuves de pratique professionnelle. Voilà donc le calendrier des épreuves hors session.
Allons à présent dans la province du Kwilu où les élèves déplacés des Kwamout reçus dans la province éducationnelle Kwilu 1 sont exonérés de tous les frais pour la participation à l'épreuve hors session de l'examen d'État édition 2023 qui débute, comme dit, le 8 mai prochain. Ces élèves déplacés au total 15 ne paieront ni les frais de participation ni des fiches, encore moins des scolarités. La décision est du gouvernement provincial qui assure leur prise en charge. C'est le directeur provincial de l'EPST Kwilu 1 qui l'a annoncé lundi 1er mai à la presse. À l'occasion, Denis Changa Kapinga Oshanga fait savoir que les frais de participation à cette épreuve s'élèvent à 70 000 francs pour la session ordinaire et les fiches à 52 000 francs. Il interdit formellement au chef d'établissement d'exiger d'autres frais en dehors de ceux fixés par le gouverneur de province à travers son arrêté. Le prophète du Kwilu, Denis Changa, est au micro de Irène Boma.
Nous sommes en train de nous préoccuper de ces enfants déplacés pour les amis qui sont au secondaire, en sixième. Ils sont au nombre de 15. Le gouvernement provincial avait pris des dispositions telles qu'aucun enfant ne paye en frais. C'est-à-dire, en dehors des frais de scolarisation, le gouvernement provincial a pris aussi en charge les frais des évaluations qui s'élèvent à 70 000 francs, 70 000 francs pour la dissertation et 55 à la session ordinaire. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a décidé que ces enfants puissent être prise en charge sans payer aucun euro. Pas de frais de fiches qui s'élevaient d'ailleurs à 52 000, donc tout ensemble, photos et tout. Nous avons sensibilisé dans trois sites, enseignants et finalistes. Nous avons dit, on ne peut pas demander un rond de plus sur les montants que le gouverneur a décidé à travers son arrêté. Nous avons dit, une école où on demande de l'argent et qui n'est pas prévu, ces élèves doivent nous informer. Nous avons donné nos numéros de téléphone, les numéros de l'IPP, de l'IPROSEC et mon numéro en moi provède. De sorte que là où il y a des dérapages, on nous appelle pour que ces gens-là puissent subir la rigueur de la loi.
Province de la Tchopour à présent. Recrudescence des cas de monkeypox ou la maladie des singes. Dans trois zones de santé de l'intérieur, à savoir Yahuma, Bassoko et Isangi, sont les plus touchés. La ville de Kisangani n'en est pas moins épargnée. Au total, 546 cas, dont 45 décès liés à cette maladie, ont été répertoriés entre janvier et avril 2023 dans la zone de santé. Selon la division provinciale de la santé, cette situation se justifie notamment par le manque de sensibilisation sur la protection contre cette maladie. La prise en charge adéquate des malades fait également défaut, précise Dr. Franck Nebois, analyste en charge des surveillances épidémiologiques à la division provinciale de la santé Tchopo. Néanmoins, un plan de réponse pour éviter l'expansion de cette épidémie a été mis sur pied. Il est au micro de Jacques Mokonkole.
Nous avons en face de nous une réelle épidémie. Il y a même des zones de santé dans la ville de Kisangani qui ont notifié des cas. Il y a Lubunga et il y a Kabunda. Il y a des cas suspects qui ont été notifiés par la zone de santé de la Tchopo ici sur place en ville. Et en termes de létalité, c'est que les décès liés à cette maladie, nous occupons pratiquement la première place et on n'a pas croisé les bras. Nous avons élaboré un plan de réponse. Il y a des activités en rapport avec la surveillance, en rapport avec la prise en charge de ces cas-là. Il y a des activités par rapport au diagnostic. Il y a des activités en rapport avec la prévention et contrôle de l'infection. Comme le nom même l'indique, la variole des singes. Et là, ça s'est transmis à l'homme. Et l'homme contacte cette maladie en entrant en contact avec des animaux malades. Mais aussi la contamination secondaire, où l'homme transmet à un autre une transmission interhumaine. La première prévention, comme le lavage des mains, il y a aussi cette sensibilisation-là contre les manipulations des cadavres, des animaux. Si on s'abstient de tout ça, on va être vraiment à l'écart de cette maladie-là.
Au centre du pays, plusieurs maisons incendiées, des blessés ainsi que des morts enregistrés à Dibelengue au Kassai central. C'est le bilan des affrontements entre les habitants de Benakassassa, Basongue, Banembele et Bajilamboa. À l'origine, dispute des limites de terre. Selon les sources qui nous livrent cette information, c'est la semaine dernière que ces affrontements ont eu lieu et des femmes, hommes et enfants sont en débandade. François Kadima nous en parle.
Contacté, le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité confirme l'information et rassure que tout est sous contrôle. Antoine Kanoulambi appelle par ailleurs au calme. Il y avait un conflit de terre, il y a des gens, des Songhe qui sont venus de Sankourou et qui ont été accueillis par la communauté locale. Ils se disputent la terre. Vous savez, comme dans tous les conflits, lorsqu'il y a affrontement, les gens peuvent se déplacer. Depuis que toutes les interventions sont sur place, la situation est calme, a dit le ministre Kanoulambi. Tout en appelant les partis à agité au calme, cet homme d'État promet une descente incessamment d'Imbelengue en vue d'aller évaluer les besoins. À savoir, plus de 100 familles qui ont fui ces affrontements sont arrivées depuis vendredi dans la localité de Chintumwanza, dans le groupement de Balila Kasanga, secteur de Mukumbi, Mouzadi Kankonde. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Retombé de ces conflits dans le Kassai oriental, plus de 300 familles vivent dans les conditions précaires depuis leur arrivée vendredi dernier dans les localités de Chimeta et Chintumwanza, groupement de Bajila Kasanga 2 dans le secteur de Mukumbi, territoire de Lupatapata. D'après le ministre provincial de l'Intérieur du Kassai oriental, ces personnes ont fui les affrontements qui se sont produits depuis jeudi dernier dans le secteur de Lubi dans le territoire de Dimbelengue au Kassai central. Ananias Mouzadi Kankonde signale cependant le retour progressif de certains déplacés vers leur milieu d'origine. Ananias Mouzadi Kankonde, ministre provincial de l'Intérieur du Kassai oriental, a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
La 21e région militaire qui est basée ici a été instruite. On commençait aussi à prendre en charge parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Ils ont commencé à soigner nos compatriotes. Puis cet événement qui nous a surpris n'était pas du tout bon, mais il y avait les membres du village qui avaient reçu aussi les autres et partagé le peu qu'ils avaient. Nous avions parmi les tâches partagé avec mon collègue du Kassai central. Il devait aussi prendre langue avec les HCR, comme ce dernier a son siège à Kananga, pour une assistance humanitaire. Mais de notre côté, nos militaires avaient aussi assisté la population sur place. Mais la majorité de nos compatriotes du Kassai central ont déjà regagné leur milieu naturel.
Environ une dizaine de camions chargés des marchandises sont bloqués au Rwanda depuis une semaine. La Fédération des entreprises du Congo FEC Sud Kivu, qui alerte sur la situation, renseigne que ces camions sont interdits de circuler sur les territoires rwandais avec immatriculation de la RDC. Le président de la FEC Sud Kivu ajoute que le gouverneur de province a promis de contacter son homologue rwandais de Tchangungu pour dénouer la crise. Joyeux Baïdika le dit au micro de Jean Kassami.
Nous avons une dizaine de camions qui sont bloqués au niveau du Rwanda, tout simplement parce que ces camions sont immatriculés au Congo. Et pour le Rwanda, il n'est pas question pour les camions du Congo de chercher le passage au Rwanda pour le transport de marchandises venant de l'extérieur du Rwanda. Ils demandent à ce que tout le camion transportant le marchandise passant par le Rwanda soit le camion du Rwanda et non du Congo. Les opérateurs économiques qui vont chercher le ciment au Rwanda, ils vont avec leur camion parce qu'ils ont aussi leur camion. Mais après chargement, ces camions sont bloqués sur la route. Avec tout ce que nous avons comme accords régionaux, il n'est pas normal qu'on n'accepte pas la libre circulation de nos engins au niveau du Rwanda. Ce sont des accords qui prônent la libre circulation de biens et de services. Chez nous, on n'a pas de problème, mais pourquoi on peut en faire un problème de l'autre côté?
Et dans le nord qui vous voisin, le trafic routier Sakemasisi centre pourrait reprendre dans les 10 jours à venir. Promesse d'une délégation mixte dépêchée par le gouverneur Constant Dima hier lundi sur le site où cette route est coupée par un éboulement. C'est à environ 40 km de Goma près de Mushaki. Depuis vendredi, la ville de Goma est coupée de cette importante voie d'approvisionnement en produits vivriers par cette catastrophe qui affecte aussi les opérations militaires dans le secteur. Récit de Bernard Denyangui.
La mission conduite hier par l'administrateur de Masisi au lieu de catastrophe situé à 10 km de la cité de Sake, où l'affaissement de la route est de 7 mètres, avait l'objectif de faire l'état des lieux des dégâts survenus la nuit de jeudi 27 au vendredi 28 avril. Le directeur provincial de l'Office des routes estime que, dans les 10 à 20 jours, un rétablissement provisoire du trafic est possible, l'ingénieur Papi Menga.
Nous allons nous concerter en synergie avec Premidis pour voir comment d'abord élargir un peu la route en amont gauche pour voir si les véhicules vont passer d'ici 2 ou 3 semaines en attendant des solutions définitives que nous allons soumettre à la hiérarchie supérieure. Le sol aussi n'est pas stable. C'est le civisme où on va demander à la population de bien conserver la nature parce que c'est ce qui est plus important.
Rappelons que les axes Rutshuru et Kichanga étant encore vidés de leurs habitants, une des principales voies d'approvisionnement de la ville de Goma en produits vivrier reste l'axe Sake Mushaki Masisi centre, coupé aussi depuis vendredi. Cette catastrophe affecte aussi les opérations, notamment du contingent burundais de la force régionale de l'EAC déployé à Mushaki. Les travaux de réhabilitation promis par l'autorité provinciale seront exécutés par la société Premidis, qui est la tributaire de l'axe. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Situation similaire dans la région du Katanga, le pont Kafinga jeté sous la rivière portant le même nom, à la limite entre le territoire de Malembankulu dans le Haut-Lomami et Mitwaba dans le Haut-Katanga, s'est effondré depuis plus d'une semaine. Du coup, le trafic entre les deux entités est coupé. La société civile à travers l'ONG dénommée Service chrétien d'animation rurale du Katanga, SCARC, lance un SOS au gouvernement et aux humanitaires pour qu'une solution soit trouvée en urgence afin d'éviter la spéculation des prix sur le marché ainsi que les difficultés d'approvisionnement des centres de consommation en produits de première nécessité. D'amples détails avec Gilbert Kayumba, responsable de l'ONG SCARC, au micro de Jean Gandou.
Depuis le lundi de la semaine passée, le pont Kafinga qui sépare Malembankulu de Mitwaba, donc le Haut-Lomami du Haut-Katanga, étant coupé, des camions tombés dans l'eau. Les conséquences économiques, c'est que tous ceux qui exploitent les minéraux sont bloqués. Toutes les activités économiques sont bloquées de part et d'autre. Les poissons ne savent plus quitter la région de Malembankulu dans la dépression de Kamalondo pour les grands centres miniers et les villes comme les grandes agglomérations du Haut-Katanga et du Lualaba. Sur la nationale numéro 1, Kanyama, Kamina, Kabondo-Janda, Bukama, Luena, Mukulakulu, jusqu'à Nguba. En venant du Grand Kasaï, il y a des flaques d'eau où les véhicules s'embourbent. Cette situation-là bloque la circulation des véhicules, des personnes et des biens pour relier les Grands Kasaï. Nous sollicitons l'intervention de la communauté humanitaire et du gouvernement de la République pour venir en urgence débloquer la situation.
Actualité internationale.
Et nous partons de l'Ouganda où un garde du corps a abattu un ministre tôt mardi lors d'une apparente dispute privée selon l'armée et les médias locaux. L'agresseur, qui n'a pas été identifié publiquement, a ensuite retourné l'arme contre lui selon la chaîne publique UBC et d'autres médias. La victime, Charles Engola, a servi dans le gouvernement du président Yoweri Museveni en tant que ministre adjoint chargé du travail. Il était colonel de l'armée à la retraite. La fusillade a eu lieu au domicile d'Engola dans la banlieue de la capitale ougandaise Kampala et des enquêtes de la police se trouvent actuellement sur les lieux pour trouver beaucoup plus de détails. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé lundi devant la presse une farce judiciaire et une justice injuste à quelques jours de son procès en appel prévu le 8 mai. Condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation en mars dans l'affaire Prodac qui l'oppose à Madame Mbaye Niang, actuelle ministre du Tourisme, Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civique contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall, accusant ce dernier de vouloir valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Le leader du parti PASTEF devra également comparaître devant le tribunal le 16 mai dans l'affaire du viol de Hadja Sarr, une machination ourdie par le gouvernement pour l'écarter selon lui.
L'invité.
L'invité de la rédaction est la directrice du service de lutte anti-mine de l'ONU UNMAS qui vient d'effectuer une visite de 48 heures à Beni dans le Nord Kivu, région touchée depuis quelques mois par les attaques à la bombe artisanale. Dans cette interview exclusive à Radio Okapi, Hélène Kohn insiste sur l'importance de renforcer les capacités des ONG congolaises qui travaillent dans la lutte contre les mines, les engins explosifs improvisés et les restes d'explosifs de guerre. Hélène Kohn répond aux questions de Martial Papimokeba.
Hélène Kohn, bonjour.
Bonjour.
Quel bilan tirez-vous de votre mission à Beni?
Ce que j'ai vu ici à Beni, que nous travaillons directement avec la communauté et les enfants en particulier, parce que ils sont la population qui souffre plus gravement du risque des engins explosifs improvisés et des mines et des restes explosifs de la guerre. J'ai aussi parlé avec le commandant du FRDC dans le secteur. Il a dit que le partenariat avec UNMAS est très important pour eux parce qu'on est en train de travailler ensemble sur la construction d'une dépôt des armes dont ils ont besoin. Aussi, il a parlé de l'éducation qu'on apporte aux éléments du FRDC, mais il a dit que c'est pas suffisant et il a demandé plus de formation pour les éléments du FRDC qui fait face jour à jour aux engins explosifs improvisés. Aussi, nous avons parlé aujourd'hui avec le maire de Beni qui a vécu beaucoup des incidents dans Beni et aussi dans la région, l'utilisation des explosifs improvisés contre la population, et il a beaucoup apprécié la manière dans laquelle UNMAS a répondu dans les situations d'urgence. Il a dit qu'on répond vitement à n'importe quelle heure, quel jour de la semaine, et avec une expertise qui manque ici, une expertise très spécialisée dans les engins explosifs. Je suis très orgueilleuse de cet partenariat que nous avons avec le maire et avec le PNC en Beni. Aussi, j'ai parlé avec le commandant du FIB parce que nous avons aussi un mandat d'appuyer le force et le FIB de se préparer pour faire face à cette menace qui pose les engins explosifs improvisés. J'ai écouté de beaucoup de sources que cette menace est en train d'augmenter. Il faut être préparé, essayer de se préparer à mieux pour cette menace.
Exactement, la problématique des mines et des engins explosifs improvisés demeure préoccupante en RDC, pas seulement pour l'est du pays, mais partout ailleurs, à travers les pays. Les ONG qui interviennent dans ces secteurs affirment qu'elles ne sont pas suffisamment soutenues. Quel engagement pouvez-vous prendre de plaider cette cause auprès de la communauté internationale à votre retour à New York?
Ça, c'est très important parce que nous sommes fixés sur l'objectif de transitionner la connaissance et les ressources aux ONG nationales pour qu'ils continuent et pérennisent leur réponse aux dangers posés par les mines et les engins explosifs improvisés. Alors, quand je rentre à New York, je vais continuer de faire le plaidoyer pour que les bailleurs commencent à financer les ONG nationales directement.
La MONUSCO a annoncé un plat de retrait ou un plat de transition de la RDC, mais en même temps, les besoins restent immenses en termes de lits antimines en RDC. Quels vont devenir justement votre programme et UNMAS après ce départ de la MONUSCO?
Nous sommes en train de travailler très étroitement avec la mission comme composante et aussi avec l'équipe pays des Nations Unies de s'assurer avant du retir de MONUSCO, nous avons fait tout possible pour renforcer la capacité nationale de faire face à la menace posée par les mines et les engins explosifs improvisés et pour réduire le risque aux civils. Mais aussi, il y a la possibilité de continuer après la transition parce que UNMAS travaille tant comme une composante d'une mission de maintien de la paix comme un programme dans le contexte du équipe pays. Alors si les autorités du Congo l'appuient de UNMAS après le retir de la mission et si les bailleurs s'intéressent de le financer, c'est possible que nous restons pour contribuer dans une manière qui ajoute valeur quoi. Ce que nous voulons pas faire, c'est substituer aux institutions nationales de sécurité ni aux ONG nationales.
Hélène Cohn, merci.
Merci à vous.
Et voilà comment se termine cette édition de journal préparée par Élisée Tchikota, Martin Sebujangwe, l'ensemble de la rédaction, Jean-Noël Mokonda assurait la prise de son et la mise en onde. Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté. Le prochain rendez-vous avec une autre session d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h de Kinshasa avec Pascal Massirika.